Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Comment aider les Français à passer l'hiver alors que le prix de l'énergie flambe? Le gouvernement doit dévoiler ses mesures cet après-midi, mais on vous en révèle déjà les contours. Il y aura un blocage des prix, mais probablement une hausse à deux chiffres quand même. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé en Gironde où 1 millier de pompiers restent mobilisés. Et puis des centaines de milliers de Britanniques, cette fois attendus à Londres pour un dernier hommage à Elisabeth II. Une procession solennelle aura lieu cet après-midi dans la capitale anglaise.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Aujourd'hui, on part en Ariège où l'ours est pointé du doigt après la mort de dizaines de brebis. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Mais comment retaper votre jardin? Je vous le disais, il a grillé cet été. On vous expliquera comment faire reverdir tout ça. Juste avant 13h, LVT Midi, les coups de cœur cinéma de la semaine avec Stéphane Boutsock et du Cadmerat dedans. La question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous prêt à moins chauffer cet hiver pour économiser de l'énergie?
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. J'ajoute, le métier de professeur est-il plus dangereux qu'avant? Vous savez qu'un lycéen de 15 ans a porté hier dans son établissement de Caen un coup de couteau à la gorge d'un professeur. Et puis on pourra parler également de la fin de vie.
Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Orageux cet après-midi.
Hein. Exactement, et on a 6 départements dans le sud-est qui sont en vigilance orange aux orages.
Merci Peggy, la météo complète évidemment à la fin du journal.
RTL Midi.
Comment aider les Français à affronter l'hiver et la crise de l'énergie? C'est à cette question cruciale que le gouvernement va tenter de répondre cet après-midi. Après avoir multiplié les appels à la sobriété, il va falloir faire des propositions. Elisabeth Borne s'exprimera à 15h30. Pierre Herbulot, bonjour.
Bonjour.
Mais vous avez déjà les contours de ce qui devrait être annoncé.
Oui, et c'est le retour du bouclier tarifaire. Je vous rappelle le premier dispositif lancé il y a presque un an par Jean Castex. Le blocage des prix du gaz et de l'électricité, le tarif de nos factures aurait dû exploser. Le bouclier nous a protégés. La version 2 annoncée tout à l'heure sera moins protectrice. Il y aura une augmentation pour tout le monde. C'est le pourcentage de la hausse que doit annoncer Elisabeth Borne. François Carlier de l'association de consommateurs CLCV fixe son maximum.
Sur l'électricité, en réalité, il y a fondamentalement des moyens d'avoir une hausse très raisonnable, peut-être à 10-15%. Pour le gaz, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est vrai qu'on dépend d'une matière importée avec la crise de l'Ukraine. Alors peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de faire une hausse un peu graduelle. Donc peut-être commencer par un plus 10 ou un plus 15% au premier trimestre. Ensuite, envisager des hausses supplémentaires, mais une fois que la période de chauffe est passée.
Sans eau. Ça peut les faire bondir.
Ouais, absolument. Sans aucun dispositif de l'État, les prix auraient déjà doublé. Ça, c'est ce que dit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il y a 10 jours. Reste que même cette hausse limitée de 10 à 20%, vous le disiez, Pascal, serait difficile à encaisser pour les ménages les plus modestes. C'est pourquoi un nouveau chèque énergie doit également être annoncé pour aider les bas revenus.
Pierre Herbulot du service économie d'RTL. Merci Pierre. Dans le même temps, l'Union européenne dévoile son dispositif d'aide aux ménages et entreprises pénalisées par le coût de l'énergie. Ce qui passera par la fameuse taxe sur les super profits. Les détails dans le journal de midi et demi.
L'Union européenne qui va aussi doubler ses capacités de lutte contre les incendies.
Avec l'achat, oui, de 10 avions et 3 hélicoptères pour l'ensemble du territoire de l'Union, des renforts qui pourront être envoyés pour prêter main forte à des territoires sinistrés comme la Gironde actuellement. 3620 hectares ont déjà brûlé à Somos, Philippe de Maria. Le feu y est toujours actif, les pompiers évidemment mobilisés, 1 millier d'hommes sur le terrain, 6 canadaires, 3 dâches. Et face à eux, certains habitants qui bravent les consignes pour rentrer chez eux.
Oui, avec un officier du 10-33, je sillonne les contours du feu de Somos. C'est au détour d'une piste. Nous tombons sur Jean-Claude, évacué hier. Il vient de revenir dans sa maison en plein milieu des bois.
J'ai dû partir vite. J'ai tout laissé. Et puis donc là, maintenant, je viens de revenir. Moi, je connais les pistes, tout ça.
Comment vous sentez là maintenant?
Un peu stressé. Un peu stressé parce que bon. Après, c'est secondaire, mais j'ai beaucoup de volailles, je ne sais pas où elles sont. Alors, je vais les chercher. Vous voyez, j'ai mis les bottes.
Le feu est tout à côté. Hein.
Le feu est tout à côté, je sais très bien.
Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de rester? On vous dit de partir?
Je suis là un peu en fraude, parce que normalement, je ne devrais pas être là. Cas majeur, je suis là.
Et il a un mot de remerciement pour les pompiers qui luttent pour sauver sa maison.
Et d'abord déjà de les remercier, hein, parce que bon, si c'est comme ça, c'est grâce à eux quand même, hein, que ça n'a pas brûlé, fait qu'ils ont protégé toutes les maisons déjà. Hein.
Et Jean-Claude reste pour le moment chez lui, à la merci d'une saute de vent qui pourrait bien rabattre le feu sur sa maison.
Philippe de Maria en Gironde pour RTL. La France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur le rapatriement des familles de djihadistes en Syrie. L'État français va donc devoir reprendre l'examen des demandes sans laisser de place à l'arbitraire. À Londres, la foule se presse déjà aux abords de Westminster Hall, la plus vieille chambre du Parlement britannique, où la dépouille d'Elisabeth II est attendue cet après-midi au terme d'une procession dans les rues de la capitale. La dépouille de la reine qui a passé une dernière nuit à Buckingham Palace pendant près de 5 jours. Désormais, les Britanniques pourront aller se recueillir à Westminster.
RTL Midi.
Tout à fait autre chose à présent avec l'enquête qui se poursuit à Saint-Étienne avec de nouvelles gardes à vue ce matin.
Après le maire Gaël Perdriau et 4 de ses proches entendus hier dans le volet du chantage à la sextape, 4 autres personnes sont entendues aujourd'hui, cette fois pour des soupçons de détournement de fonds publics, des responsables d'associations qui auraient reversé 40 000 euros à ceux qui sont soupçonnés d'avoir monté la machination. Autre garde à vue en région parisienne, cette fois dans l'affaire Keira Amraoui, cette joueuse du PSG qui avait été, rappelez-vous, agressée en novembre dernier, frappée alors qu'elle rentrait chez elle par des hommes qui avaient ensuite pris la fuite. Sa coéquipière au PSG et en équipe de France de football, Aminata Diallo, avait été un temps soupçonnée. Et ce matin, donc, Guillaume Chiez, 3 hommes ont été interpellés.
Oui, 3 hommes qui a priori n'ont pas de lien avec Aminata Diallo. L'enquête devra confirmer définitivement ce point. En tout cas, à ce stade, la piste d'une rivalité sportive entre les deux joueuses est toujours écartée. Les 3 hommes ont été interpellés ce matin aux Aurores pour 2 d'entre eux à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Le 3e à Hyères dans l'Essonne. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs du passage à tabac de la joueuse, mais il reste une grosse inconnue. Leur mobile ce soir de novembre, lors de l'agression de Keira Amraoui qui lui a valu 3 semaine d'ITT, les agresseurs n'ont rien dérobé. S'agissait-il d'un acte gratuit ? Ça semble peu probable. Lors de ces gardes à vue, les enquêteurs vont tenter de creuser la piste d'un possible commanditaire qui aurait voulu nuire à la joueuse.
Merci beaucoup Guillaume Chiez. Plus d'un vol sur 2 annulé pour les courts et moyens courriers. France réduit drastiquement son offre pour vendredi après-demain. Donc, la compagnie s'adapte à la grève annoncée des contrôleurs aériens français. Et puis du sport, après la défaite de l'OM 1-0 hier soir face à Francfort, c'est le PSG qui retrouve la Ligue des Champions ce soir. Les Parisiens se déplacent sur le terrain du Maccabi Haïfa en Israël. Match à vivre dans les flashs sur notre antenne et en intégralité sur notre application RTL. L'avant-match, ce sera d'ailleurs dès 20h avec l'équipe de RTL Foot.
Et c'était une première hier soir sur RTL Foot, quoi, sur l'application, et j'ai écouté. C'était formidable.
Comme d'habitude avec eux. La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour cet après-midi.
6 départements du Sud-Est déjà sont encore en vigilance orange aux orages. Céline, ça concerne les départements entre l'Ardèche, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Alors les orages vont se réactiver cet après-midi, ça s'est un peu calmé mais ça va s'activer à nouveau. On attend également de fortes pluies, il y en a déjà beaucoup. Et le risque orageux finalement concerne une bonne partie nord et une bonne partie est du pays, entrecoupée d'éclaircies et de passages nuageux. Mais à un moment donné, de toute façon, vous aurez droit à votre douche, ça c'est sûr. Et puis sur les bords de Manche, ça reste gris, ça reste bien couvert avec des averses plus soutenues sur le nord. Seul le sud-ouest reste à l'écart du temps instable avec du soleil et de la chaleur, ce qui n'est pas une bonne nouvelle malheureusement pour les incendies. Les températures, elles sont encore élevées. On dépasse les 30 degrés dans le sud-ouest, 27 à 31 près de la Méditerranée et 22 à 27 au nord.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, un jour en France. Chaque jour, l'info au plus près de chez vous.
Avec nos correspondants dans tout le pays, aujourd'hui direction l'Ariège. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour.
L'Ariège, ou plutôt le Couserans, où vivent quelques 70 ours. Les plantigrades pointés du doigt une nouvelle fois par les éleveurs. Après la découverte, Patrick, de 170 brebis retrouvées mortes, elles se sont jetées dans le vide.
Oui, une fois de plus, dans ce petit territoire qui est le coin le plus sauvage des Pyrénées, ça tombe très mal et cela ravive bien sûr la colère des Ariégeois. Pour protéger les troupeaux, la préfecture avait autorisé des tirs d'effarouchement. Mais le tribunal administratif, saisi par les associations de défense de la nature, a suspendu ces autorisations. Philippe Lacube est un opposant historique à la réintroduction de l'ours. Il est le président aussi de la Chambre d'agriculture de l'Ariège.
Mais vous vous rendez compte, quand le juge du tribunal administratif dit que la priorité doit être donnée à l'ours et pas au pastoralisme, Vous vous rendez compte le mal qu'il peut faire aux populations de ces montagnes. Ça veut dire que nous sommes quantité négligeable. Et cette présence d'ours aujourd'hui, elle tue le couserans. Elle le tue en termes touristiques, elle le tue en termes agricoles, pastoral. C'est une véritable catastrophe.
On entend, hein, Patrick, la colère, le désarroi des Ariégeois qui remettent en cause la présence de l'ours chez eux.
Oui, bien sûr, mais pour Alain Rennes, le directeur de l'association chargée de gérer la réintroduction des ours dans les Pyrénées, la question de la présence de l'ours dans le couserans ne se pose pas.
Il y a une directive européenne qui impose à la France de restaurer une population viable d'ours dans les Pyrénées. Il n'y a aucun débat à ce sujet. Les discussions ne doivent pas porter sur est-ce qu'il doit ou pas y avoir des ours dans les Pyrénées, mais comment on vit ensemble.
Alors Patrick, que peuvent faire les habitants de Couserans, les bergers, pour aller au-delà de leur colère ?
Eh bien encore une fois, interpeller le gouvernement. Alain Servat est le maire d'Ustou, c'est sur le territoire de son village qu'a eu lieu cette dernière catastrophe.
C'est à lui de trouver la solution. Il les a réintroduits, à lui d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur le territoire. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser tuer nos bêtes, des centaines de bêtes, par rapport à la présence de l'ours. Quoi. Chacun sur le territoire, c'est tout.
Et Christine Tecky, la présidente du conseil départemental de l'Ariège, a demandé un rendez-vous avec les ministres de l'Agriculture et de l'Écologie.
Ça fait des mois qu'on demande la régulation avec les loups. La question de la régulation, ça a été tirer une centaine de loups sur les Alpes, hein. Sur les ours, la régulation, soit ils les ponctionnent, ils les remettent en Slovénie, là où ils sont allés les acheter, soit ils font des ponctions comme les loups, hein.
Rappelons que le premier lâcher d'ours slovène date de 1996. C'était dans le département de la Haute-Garonne. L'Ariège voisine n'avait même pas été consultée à l'époque. Pourtant, c'est là qu'il y a le plus de brebis. Alors peut-être croyait-on en haut lieu que les plantigrades respecteraient les frontières administratives.
Mais elles sont moyennement délimitées sur les sommets. Merci beaucoup Patrick Tegero.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. En pleine quête d'économie d'énergie, est-ce que le pouvoir politique ne devrait pas montrer l'exemple et quitter ses palais dorés pour des lieux moins énergivores, à moins que ce ne soit qu'un gadget et qu'un symbole? Eh bien, on va en parler dans un instant avec Vincent Derosier. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Le ministère de l'économie et des finances va quitter le Louvre pour s'implanter à Bercy, à côté du palais Omnisport. Le déménagement se fera de manière progressive entre 86 et 88.
Et finalement, c'est en 89 que le ministère de l'économie a quitté le Louvre pour Bercy. Et à l'heure de la sobriété recommandée, le pouvoir doit-il donner l'exemple? Quitter ses palais dorés pour des locaux mieux isolés, moins énergivores? Avec nous pour en parler en studio, Vincent Derosier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à RTL et vous avez enquêté sur ce sujet. D'abord, est-ce que ce sont vraiment des gouffres énergétiques, l'Élysée, Matignon ?
Oui, c'est un grand oui. L'expression passoire énergétique n'est pas du tout usurpée. Si l'Élysée devait subir un diagnostic énergétique aujourd'hui, sa note serait E sur une échelle allant de A à G. Alors, j'ai décortiqué un récent rapport de la Cour des comptes qui s'intéresse à toutes ces dépenses des lieux de pouvoir. Le réseau électrique et la plomberie sont hors d'âge, les cuisines ne sont pas aux normes. Tout ça, évidemment, ça provoque des pertes d'énergie considérables. À Matignon, il y a des problèmes d'humidité, de vent qui passe sous les portes, le parquet qui grince. Ce sont des vieux monuments. Il y a eu du retard aussi à l'Élysée. Emmanuel Macron a pris conscience assez tard dans son quinquennat qu'il fallait changer les choses. En ce moment, il y a 37 millions d'euros de travaux qui ont été décidés pour mieux isoler, tout mettre aux normes.
37 millions pour l'Élysée ?
37 millions pour...
Ah, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, mais...
Pour rénover une maison, c'est beaucoup, 37 millions.
C'est alors l'Élysée, maison. Précisons-le
certes,
quand même...
mais 37 millions, c'est beaucoup.
C'est 32 000 mètres carrés et 800 personnes qui travaillent à l'Élysée parce qu'il y a aussi des dépendances. Voilà. Mais par exemple, il y a un projet d'aquathermie. C'est s'appuyer sur les eaux souterraines pour chauffer tout le palais. Et l'Élysée nous dit, et même la Cour des comptes le dit, ça pourrait réduire de 80% les émissions de CO2 du palais.
Bon, c'est entendu, mais c'est quand même dérisoire les économies qu'on ferait si on quittait l'Élysée.
C'est combien la facture d'ailleurs énergétique de l'Élysée, Vincent ?
Alors, on a les factures de 2020 pour l'Élysée. Si on prend gaz, électricité, eau, plus de 750 000 euros. Et attention, si on regarde le Sénat, 1,5 million. Et l'Assemblée, bon, l'Assemblée c'est 124 000 mètres carrés et 9 500 bureau, mais c'est 3,5 millions d'euros.
C'est entendu, mais 750 000 euros par exemple pour l'Élysée, on pourrait imaginer faire combien d'économies sur ces 750 000 si c'était aux normes 200 000, 300 000 ?
C'est difficile à dire parce qu'il faudrait aussi englober tous les autres ministères qui sont parfois comme l'hôtel de Castres, des vieilles demeures magnifiques.
Mais ça reste une goutte d'eau, nous sommes d'accord. C'est plus symbolique ou de donner l'exemple, pourquoi pas ?
Ce serait quand même des... centaines de millions d'euros qui pourraient être
économés. Des centaines de millions d'euros ?
Bah, si on prend tous les ministères, les lieux de pouvoir, peut-être, oui. Parce que le déménagement de Bercy, on l'entendait au tout début de ce journal. On disait que c'était pas possible. Aujourd'hui, si vous allez à Bercy, c'est vraiment un lieu qui n'a aucun charme. Mais c'est des bâtiments tout neufs, parfaitement isolés.
Certes, mais la République, l'Élysée, c'est aussi un symbole. Forcément, et c'est un symbole auquel les Français sont attachés. On voit Buckingham en ce moment. Si en plus on n'a plus l'Élysée, je ne sais pas ce qui va rester de la France.
C'est la question. Emmanuel Macron, en tout cas, ne veut pas quitter l'Élysée. Un président, ça habite au palais de l'Élysée.
Mais les Français, je ne suis pas sûr qu'ils aient. Tiens, on pourra poser la question.
Il faut leur demander.
Les Français ont envie de quitter l'Élysée.
Les journées du patrimoine, on voit que ça attire énormément de gens à Matignon, à l'Élysée. Est-ce que les gens seraient d'accord pour que certains ministres partent dans des grands bâtiments à la Défense, peut-être. Oui. Pour le Quai d'Orsay, Matignon ou l'Élysée, il faudrait leur poser la question.
D'autant que ça reste, comme vous le disiez, une partie du patrimoine français, et que même si on les transformait en musée, par exemple, il faudrait malgré tout continuer à les chauffer. On imagine mal les vendre à un organisme privé, en tout cas.
Non, et ça demande des millions d'euros de travaux. D'ailleurs, à l'Assemblée, j'ai regardé un petit peu les budgets et les rapports. Ce sont des millions d'euros chaque année qui sont utilisés dans le budget pour réparer, améliorer, isoler. À l'Assemblée, ça peut paraître dérisoire, mais il y avait avant des lampes halogènes qui consomment énormément d'énergie. Tout a été refait avec des ampoules LED.
Bon, c'est pas de toute façon, on est d'accord, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Aucun déménagement d'un grand ministère n'est à l'ordre du jour.
Pour l'Élysée, c'est non. Emmanuel Macron ne veut pas en entendre parler, mais la question va revenir. Bruno Le Maire récemment avait dit il faut en finir avec les palais de la République. Bon, bah, lui est déjà à Bercy, donc il peut tout à fait donner l'exemple.
Il est dans un truc pas beau, donc il veut que les autres le soient aussi.
Il veut que les autres le suivent. Le débat reviendra inévitablement. Est-ce qu'il faut continuer à laisser des ministres dans des grandes demeures comme ça, très énergivores ?
Bon. Matignon, en tout cas, c'est un des plus beaux parcs.
Et Jean Castex a mis du double vitrage et un puits pour alimenter Matignon
c'est,
avec de l'eau.
C'est absolument formidable ce qu'il avait. Ça dénote un certain état d'esprit, les travaux de Jean Castex.
Sens et puis,
il a planté un arbre comme tous les premiers ministres depuis.
Alors qu'il n'était pas connu pour être spécialement écolo en arrivant à Matignon.
C'est dans le 7e arrondissement. Matignon, c'est le plus joli parc. Vous pouvez le visiter. C'est juste à côté du Musée Rodin. Le visiter, non d'ailleurs, mais vous pouvez l'imaginer. Et c'est dans le 7e arrondissement. Dans un instant, merci beaucoup Vincent. Dans un instant, RTL Midi, votre vie. Alors, comment sauver votre jardin grillé par la sécheresse?
Même si c'est pas celui de Matignon.
Voilà, il n'y a aucun.
À votre échelle, quoi.
Bien évidemment. Alors, on en parle tout de suite. Il est 12h18.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
Votre vie tous les jours, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui.
C'était un petit jardin. Avec une table et une chaise de jardin.
Jacques Dutronc.
Jacques Dutronc, c'était un petit jardin, oui, parce que l'été a été chaud et sec. Et il a parfois mis en péril la végétation chez vous. Alors vous avez peut-être essayé de limiter les dégâts, mais avec l'interdiction d'arroser, c'était compliqué. Comment aujourd'hui le sauver, y remettre un petit peu de vie? On en parle avec Patrick Mulan, rédacteur en chef de News Jardin TV, journaliste botaniste. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour.
Alors, d'abord, si ma pelouse a grillé cet été, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on peut se contenter juste d'attendre qu'il pleuve enfin? Est-ce que ça repousse tout seul, une pelouse?
Généralement, oui. Les herbes sont extrêmement résistantes parce qu'elles ont un système racinaire important et leur première réaction, effectivement, c'est de griller. On a des paillassons, mais dès que les premières pluies reviennent, on le voit déjà maintenant, on voit bien que par tâche, c'est en train de redémarrer. Alors, si d'ici moins d'un mois, on va dire d'ici la fin du mois de septembre, on ne constate rien du tout, mais qu'il a quand même plu, ça serait bien de remettre un peu de graines de gazon. Parce que c'est une bonne période. Alors, on va mélanger les graines de gazon avec du terreau et on va faire ce que l'on appelle un sursemis. C'est même pas la peine de gratter. On peut le faire directement en surface. Alors on peut, si on veut vraiment, si c'est très pelé, on peut prendre ce qu'on appelle un râteau scarificateur. Vous savez, c'est un râteau avec des petites lames. On va gratter comme ça. On met les graines avec le terreau. Et bien sûr, on arrose généreusement.
Quand on met les graines avec le terreau ?
On fait le mélange avant.
Ça veut dire quoi, les graines avec le terreau ?
Ben, vous achetez des graines, vous achetez du terreau, vous mélangez tout le monde et puis vous semez ça.
D'accord. Non mais je sais, voilà. Assez peu, c'est pour ça que je pose une question.
Alors pourquoi, vous pouvez poser la question, pourquoi on va mettre les graines avec le terreau?
Oui.
C'est parce que justement elles vont se retrouver enveloppées d'un milieu favorable, à la fois nutritif mais aussi qui conservent bien l'humidité et ça va leur permettre de germer. Il faut le faire, je disais, avant le début octobre, parce que il faut quand même que la température reste relativement douce, autour de 10-12 degrés, ça lève encore. Mmh. Si on descend sous les 10 degrés, à ce moment-là, il est trop tard pour le semis.
Alors ça, c'est pour la pelouse, qui d'après ce que vous nous dites, est quand même globalement assez résistante.
Oui.
Mais il n'y a pas que ça dans les jardins, il y a aussi les arbustes, les fleurs. Là, c'est plus compliqué pour remettre tout le monde en forme ?
Alors pour les fleurs, c'est pratiquement impossible, sauf si ce sont des plantes vivaces. Alors vous avez dit en préambule de...
C'est quoi une plante vivace ?
Alors les plantes vivaces sont des plantes qui vivent plusieurs années. Vous avez des
les rosiers plantes... par exemple.
Voilà. Alors les rosiers, c'est des arbustes. Les plantes vivaces, ce sont des plantes herbacées. On va prendre par exemple les marguerites, puisque tout le monde connaît ça.
Oui.
Marguerite est une plante vivace, c'est-à-dire c'est une plante qui va se développer à partir du printemps depuis une souche souterraine qui, elle, est pérenne. La végétation se développe, ça fleurit. En fin de saison, ça dépérit en apparence et la souche redémarre l'année suivante. Et ça, pendant plusieurs années consécutives. Donc, on a ce qu'on appelle une plante vivace. Après, on a, vous parliez des fleurs de massif, ce sont souvent les plantes annuelles. Par exemple, les pétunias, par exemple, les œillets d'Inde, sont des plantes qui ne vivent qu'une saison.
Donc là, il faut partir à zéro.
Là, si on sera obligé de repartir à zéro, mais de toute façon, c'est pas, ça gêne pas, puisqu'on repart à zéro chaque année.
Donc ça change rien. Donc celles, les plantes qui sont mortes, les plantes vivaces, il n'y a pas de problème, elles repartiront toutes seules.
Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas sûr.
Pas sûr quand même.
Justement, en raison des conditions tout à fait exceptionnelles qu'on a eues, vous pouvez avoir des végétaux qui ont eu vraiment du mal à tenir le choc, surtout si vous étiez dans une région où il était interdit d'arroser.
Et là, il faut agir quand alors ?
Ben là, il ne faut rien faire pour l'instant, c'est-à-dire qu'il faut attendre.
On a bien fait de vous appeler, en fait, parce que pour le gazon, il ne faut rien faire, pour les fleurs, il ne faut rien faire.
Après, je vais vous dire ce qu'il faut faire sur les arbustes.
Il faut entendre pousser les jardins.
Mais oui, parce que si vous arrachez tout, vous allez peut-être arracher des végétaux qui sont en dormance, comme on appelle, c'est-à-dire qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes pour faire passer l'orage, si je puis dire, du moins faire passer la sécheresse.
Donc ce que vous
c'est une propriété pour les plantes.
Ce que vous nous expliquez, c'est que le jardinage, ça reste surtout l'éloge de la patience, donc il ne faut pas s'affoler et attendre un petit peu que les choses
Il est urgent d'attendre. Si vous avez un jardin qui est en mauvais état, vous ne faites rien. C'est Patrick Mulan qui, d'une certaine manière, je synthétise sa pensée à l'instant. On attend. 12h27, nous on n'attend pas, les infos arrivent.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL, s'informer ensemble.
Il est 12h30.
RTL Midi, le 12-30, Céline Landreau et Pascal Praud.
12h30, c'est donc la grande édition, vous le savez, de la mi-journée. Merci d'être avec nous, merci si vous nous rejoignez à l'instant. Et la grande édition, c'est Céline Landreau.
Le retour du bouclier tarifaire attendu cet après-midi. Le gouvernement dévoilera ses mesures pour lutter contre la flambée des prix de l'énergie. L'Union européenne, elle, dégaine sa taxe contre les super-profits. Plus 55% en une semaine, la 8e vague du Covid est imminente et les soignants s'en inquiètent. La dépouille d'Elisabeth II quittera Buckingham Palace cet après-midi pour rejoindre Westminster après une procession dans les rues de Londres. Pendant 5 jours, les Britanniques pourront aller lui rendre un dernier hommage. La foule se presse déjà et nos envoyés spéciaux vous raconteront tout ce qu'ils n'ont pas pu dire encore dans les journaux. Ce sera à partir de 12h40. Le PSG en Israël ce soir pour affronter le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Rencontre sous très haute surveillance et puis le rendez-vous culture LVT midi. Juste avant 13h aujourd'hui, on parlera cinéma avec Stéphane Boutsock, deux comédies à ne pas rater ce mercredi. La question du jour sur RTL.fr, êtes-vous prêt à moins chauffer cet hiver pour économiser de l'énergie ? On en parlera évidemment dans les auditeurs, on la parole avec vous Pascal à partir de 13h. Avant ça, la météo, Peggy Broche, d'un mot ?
Oui, d'un mot, orageux cet après-midi et 6 départements du Sud-Est sont en vigilance orange.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Et voilà donc la huitième vague de Covid imminente d'après le ministère de la Santé. Alors que plus de 13 000 malades sont toujours hospitalisés, Virginie Garin, le nombre de contaminations s'envole, plus 55% en une semaine.
Oui, 41 000 nouveaux cas hier contre 19 000 mercredi dernier. Alors l'épidémie repart très fort chez les enfants surtout, plutôt dans la moitié nord, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. C'est lié à la rentrée scolaire, au brassage des enfants. Il y a aussi plus de tests que pendant les vacances, mais les médecins sont inquiets car il y a eu très peu de vaccinations cet été. Alors si vous avez un rappel à faire, n'attendez pas, explique Benjamin Davido, l'infectiologue à l'hôpital de Garches.
C'est maintenant que ça se joue et que les prémices de cette augmentation très importante des contaminations doivent nous mettre dans une situation d'alerte. Le risque, c'est de se retrouver début du mois d'octobre avec à nouveau des patients qui arrivent à l'hôpital pour des Covid sévères. Et notamment, je pense aux personnes les plus fragiles qui ont des pathologies ou qui sont âgées. Malheureusement, les gens n'ont pas été au rappel de la quatrième dose lorsque c'était nécessaire.
Voilà, seulement un tiers des personnes éligibles au deuxième rappel, donc plus de 60 ans et des gens malades avec des pathologies, ont été vaccinés.
Est-ce que c'est le même variant ?
Ce n'est pas le même variant.
Ce n'est plus Omicron.
C'est Omicron, mais un petit cousin. Voilà, donc il arrive.
Et on ne sait pas encore s'il est plus fort, plus
visiblement,
virulent,
il est assez contagieux.
Plus contagieux encore.
Très vite dans les écoles en ce moment. Mmh. Voilà. Après, évidemment, on ne va pas avoir les mêmes gestes barrières. On ne va pas tous être confinés. Il va falloir vivre avec ce virus. Mais il faut protéger les plus fragiles.
Bien sûr.
Très important qu'ils se vaccinent.
Mais ce que vous dites est très important parce que c'est un nouveau variant, un nouvel Omicron, si j'ose dire. Et ça, c'est important de le préciser.
Merci beaucoup, Virginie.
Pas de blackout, mais sobriété recommandée pour éviter les coupures de courant cet hiver.
RTE, l'organisme qui transporte l'électricité dans notre pays, a fait le point ce matin et se veut plutôt rassurant sur l'hiver qui nous attend. Xavier Piechazik est président du directoire de RTE.
La plupart du temps, un effort de 1 à 5% de la consommation devrait suffire à garantir l'absence de délestage. Et dans le scénario le plus défavorable, notre scénario dégradé cumulé à des situations météo très défavorables, il s'agit de 15% de la consommation nationale. Et la seconde caractéristique, c'est que le risque ne devrait jamais porter sur des journées entières. La grande majorité des situations se situe le matin, en particulier entre 8h et 13h, on appelle ça le plateau du matin, et le soir entre 18h et 20h, qui encadre le pic de consommation de 19h. Ce n'est pas le week-end, pas les jours fériés, c'est très rarement le soir, jamais la nuit, sauf cas très exceptionnels.
Les propos recueillis pour RTL par Arnaud Touche, RTE, qui rassure donc, et l'Europe qui agit. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a dévoilé les mesures prises par l'UE pour lutter contre la crise de l'énergie, pour aider financièrement entreprises et particuliers. Ça passera, Bénédicte Tassard, par cette fameuse taxe sur les super-profits.
Oui, alors Bruxelles l'appelle contribution temporaire de solidarité. C'est un peu moins brutal. Exemple, dès que Total dépasse de plus de 20% la moyenne de ses bénéfices sur les trois dernières années. Au-delà donc de 20% de bénéfices supplémentaires, on va lui prélever un tiers de ses super profits. L'argent, il viendra également de la poche de tous les producteurs d'électricité, du nucléaire à l'éolien. Leurs recettes seront plafonnées et le reste sera reversé aux États pour qu'ils le distribuent ensuite aux PME, aux particuliers. Ursula von der Leyen l'a bien précisé ce matin, on ne profite pas de la guerre pour faire de l'argent.
Les profits, c'est bien, mais en ce moment, ils doivent être partagés, redirigés vers ceux qui en ont le plus besoin.
Dernière annonce, tous les États doivent réduire leur consommation d'électricité d'au moins 5% pendant les heures de pointe et de 10% tous les mois. Ursula von der Leyen, habillée en bleu et jaune, avec à ses côtés Olena Zelenska, la première dame de l'Ukraine, affirme sa volonté. Poutine échouera et l'Europe vaincra.
Merci Bénédicte Tassard, chef du service étranger d'RTL.
Voilà un sujet qui va nous intéresser. La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur le rapatriement des familles de djihadistes en Syrie.
Oui, la Cour a été saisie par deux couples de Français. Depuis des mois, ils demandent en vain le rapatriement de leurs filles et de leurs petits-enfants retenus par les Kurdes au nord de la Syrie. Les juges européens dénoncent l'arbitraire de la décision française et demande donc à l'État de réexaminer les dossiers. Écoutez la satisfaction de Marie Dosé, elle est l'avocate de ces deux familles.
C'est une immense victoire. Moi, je dis depuis 3 ans que la politique du cas par cas des autorités françaises et plus exactement de l'Élysée est un fait du prince, eh bien finalement la Cour européenne dit exactement la même chose. C'est arbitraire et la France ne peut pas procéder ainsi. Donc la France a tout à gagner désormais à rapatrier tout le monde. Elle nous a indiqué depuis le 5 juillet qu'il y avait un changement de doctrine et que tous les enfants allaient être rapatriés avec leur mère. Après deux condamnations, je pense qu'il serait temps maintenant qu'enfin elle transforme ses mots en actes et vite. Et moi je connais des enfants qui sont... depuis 5 ans dans les camps, et qui me demandent régulièrement pourquoi la France, elle ne me choisit pas moi. Que cette question cesse enfin d'être posée par des gamins innocents qui n'ont pas à payer le choix de leurs parents.
Des propos recueillis pour RTL par Thomas Proutot. Selon les informations d'RTL, près de 130 femmes, 260 enfants français sont toujours retenus dans les camps au nord de la Syrie. Et puis on apprend également aujourd'hui que la veuve d'un des kamikazes du Bataclan a été rapatriée en France début juillet lors du premier retour groupé de ressortissants français. On en avait parlé à l'époque.
Nouvelle garde à vue ce matin dans l'affaire de la sextape de Saint-Étienne.
Oui, après celle de Gaël Perdriaux, le maire de la ville, et de 4 autres protagonistes hier. Tous sont d'ailleurs ressortis libres. Eh bien, ce matin, ce sont 4 responsables d'associations qui sont face aux enquêteurs dans l'autre volet sensible de ce dossier, les accusations de détournement de fonds publics, Frédéric Perruche.
Et il serait question de 40 000 euros versés à 2 associations, AGAP, qui œuvre dans le domaine culturel, et France, Lettonie, Loire-Auvergne. 2 subventions de 20 000 euros chacune, votées pour l'une en juillet 2015 en conseil municipal, l'autre octroyée directement par le cabinet du maire. Jusque-là, rien de répréhensible, mais l'argent n'aurait pas été utilisé à des fins légitimes, mais pour rémunérer les 2 maîtres chanteurs présumés, Gilles Rossary-Langlais et Samy Kéfi-Jérôme, 2 proches de Gaël Perdriaux. Le premier reconnaît avoir touché les 40 000 euros, preuves à l'appui, virements, factures diverses pour des études et des prestations fictives, assure-t-il, et reverser la moitié des fonds à son acolyte. Aujourd'hui, avec ses gardes à vue, des 4 dirigeants ou anciens dirigeants de ces associations, les enquêteurs veulent avoir leur version des faits et leurs explications relatives au travail réalisé par Rossary-Langlais, avec s'ils existent des éléments matériels qui prouveraient la réalité de ces activités.
Frédéric Perruche, correspondant de RTL en Auvergne-Rhône-Alpes.
RTL Midi. Images sidérantes, fascinantes et continues. Les Britanniques attendus par centaines de milliers dès aujourd'hui à Londres pour saluer une dernière fois Elisabeth II.
La dépouille de la reine a passé une dernière nuit à Buckingham Palace et doit regagner cet après-midi Westminster Hall, la plus vieille chambre du Parlement britannique. Et cela au terme d'une procession dans les rues de la capitale. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Vous êtes justement aux abords de Westminster où une foule impressionnante se presse déjà.
2 kilomètres, Céline, c'est la distance sur laquelle s'étend déjà cette file d'attente. Ceux qui souhaitent se recueillir devant le cercueil de la reine, elle serpente dans des dizaines de rues, lourdement encadrées par la police. Je vous décris ce que j'ai en face de moi. Ces 2 enfants avec leurs parents qui sont en train d'en profiter pour faire leurs devoirs. Les parents font des mots croisés. Et puis cette file d'attente un peu plus haut, où j'ai croisé il y a quelques minutes, Sarah, elle a pris la route à 4 heures du matin depuis Birmingham, à 160 kilomètres d'ici.
C'est impressionnant. On m'a dit qu'il y avait déjà 2000 personnes devant moi et à chaque fois que je tourne la tête, je vois de plus en plus de monde arriver derrière. Donc j'espère que je pourrai voir la reine avant qu'il fasse trop noir ce soir. Mais bon, j'attends assise sur ma chaise en attendant que ça bouge.
Ce qui fait beaucoup rire son mari Tom, you're going through so different emotions these past 5 days. Vous passez par tellement d'émotions ces 5 dernières.
Oui, je veux dire, la file d'attente montre qui elle était pour nous. Les funérailles sont lundi, mais je pense que pour beaucoup de gens ici, attendre pour la voir, c'est pour mettre fin à la tristesse.
Alors toutes ces personnes sont prévenus, pas de selfie une fois à l'intérieur de Westminster Hall. Dans tous les cas, Sarah et Tom, comme beaucoup ici, se sont habillés pour l'occasion. Robe noire et costume, ils me l'ont dit. On se fait beau pour notre reine.
Vincent Serrano en direct de Londres pour RTL. Vincent, qu'on retrouvera à Presse Journal avec Marie Billon, notre correspondante au Royaume-Uni, pour qu'il nous raconte les moments forts de ce moment d'histoire justement qu'ils vivent aux premières loges, ce qui les a marqués, ce qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion de vous raconter jusque-là. Ce sera dans quelques minutes. Attention, si vous prévoyez de prendre l'avion après-demain, Air France annule 55% de ses vols courts et moyens courriers, 10% de ses vols longs courriers vendredi, donc, et cela en raison d'une grève des contrôleurs aériens français.
Le PSG est un grand favori ce soir face au Maccabi Haïfa, mais la rencontre de Ligue des Champions s'annonce électrique en Israël.
Pas moins 1 millier de stadiers seront déployés dans le stade. Les autorités israéliennes ont à cœur, Nicolas Georgerot, d'encadrer au maximum la rencontre pour éviter tout incident.
Oui, avec un double périmètre de sécurité autour du stade, un double filtrage afin de décourager notamment la venue de supporters sans billets. 350 policiers prévus, c'est inédit ici, explique Doïdou Bazak en charge de la communication du Maccabi Haïfa.
Tout ce dispositif, c'est du jamais vu pour un match de football en Israël. Et il y aura 200 journalistes. C'est un enjeu important. Il faut que l'on donne une bonne image au monde entier.
Le public le plus chaud du pays va se faire entendre dans l'enceinte de 30 000 places et sifflera peut-être encore, s'il joue, Achraf Hakimi, comme lors des deux dernières venues du PSG. Le latéral marocain avait affiché dans le passé des positions pro-palestiniennes sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, il se disait prêt à être sur la pelouse.
Je vais aller avec l'équipe, c'est pas un problème pour moi. Et je vais aller jouer et je vais rentrer à ma maison.
Jouer et rentrer à la maison, ce que fera le PSG seulement demain, exceptionnellement, car la distance ne permet pas de rentrer dans la nuit.
Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL en Israël, qui vous fera vivre la rencontre dans les flashs et pour les passionnés en intégralité sur l'application RTL dès 20h. Lucas Hernandez, absent plusieurs semaines après sa blessure aux adducteurs hier soir, c'était en Ligue des Champions face au Barça. Un contretemps de plus pour Didier Deschamps. La météo, on vous retrouve, Peggy Broche. C'est encore orageux cet après-midi. Oui.
Et on a 6 départements qui sont, signe en vigilance orange aux orages, toujours vers la basse vallée du Rhône. Le risque orageux se généralise sur l'est et le nord du pays, alors entrecoupé d'éclaircies et de passages nuageux. Le ciel reste couvert avec des averses entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Les averses d'ailleurs sont localement soutenues sur le nord. Et dans le sud-ouest, malheureusement, c'est un temps sec, ensoleillé et chaud, ce qui n'aide pas pour les incendies. Les températures jusqu'à 31 degrés encore à Toulouse, 29 à Marseille, 26 à Lyon, Strasbourg, Paris et Rennes et 20 degrés à Cherbourg.
Merci Peggy.
Dans un instant, Elisabeth II avec Vincent Serrano et Marie Billon.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Pascal Pro et Céline Landreau.
Vous voyez juste ses yeux clairs, son sourire. On pensait qu'elle était immortelle. Oui, il va nous falloir du temps, même après plusieurs jours, parce qu'elle a été là toute ma vie. Et nous ne verrons plus jamais une dame comme elle dans nos vies.
L'émotion toujours perceptible des Britanniques qui nous frappe depuis près d'une semaine déjà et le décès d'Elisabeth II. Alors aujourd'hui, on a décidé de s'arrêter avec ceux qui vous font vivre cet événement planétaire sur RTL. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Vous vivez à Londres depuis des années. Rebonjour Vincent Serrano. Vous êtes, vous, l'un de nos envoyés spéciaux. On va commencer avec vous, Marie, qui les connaissait bien, hein, ces Britanniques. On savait que ce moment finirait par arriver. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le pays lui donne autant de place, à ce qu'il y ait une telle ferveur ?
Oui, franchement, c'est effectivement pas du tout une surprise, dans le sens où, comme vous dites, c'est quelque chose qu'on redoutait depuis longtemps. On pensait qu'on aurait peut-être un petit peu plus de temps pour se préparer. Là, la nouvelle que la reine allait très mal est arrivée quelques heures avant son décès. Donc le choc a fait aussi que les Britanniques avaient d'autant plus besoin de faire sens de tout ça, de comprendre. Et c'est pour ça que, même à mon avis, il y a eu plus de couverture à cause de la vitesse justement du déroulement des faits que si on avait pu s'y préparer un peu plus.
Alors Vincent Serrano, on parle beaucoup d'émotion, mais je vous écoutais ce matin dans la matinale et cette émotion, je la percevais aussi dans votre voix, dans votre regard. Et je me disais, le journaliste que vous êtes, est-ce que vous êtes vous-même surpris par votre propre réaction d'être autant ému de voir ce qui se passe ?
Oui, bien sûr. Et vraiment, cette émotion, elle apparaît à plusieurs moments. Il y a eu notamment le Royal Exchange où il y a eu la proclamation au peuple, justement, du fait que ça devenait maintenant le roi Charles III. Et j'ai été frappé par vraiment le silence qui accompagnait vraiment constamment la foule qui se déplace à droite, à gauche, dans plein d'endroits, Buckingham Palace, à Hyde Park, juste à côté, pour déposer des fleurs. Toujours ce silence qui accompagne ces gens. Et vraiment, on a l'impression que c'est une procession permanente pendant des jours, depuis plus de 5 jours maintenant, se recueillir dans le silence. Alors il y aura d'autres temps pour rigoler, pour s'amuser, pour discuter, pour revenir sur tout ce qu'on est en train de vivre, mais vraiment impressionné par ce silence et cette façon qu'ont les Anglais depuis le début, eh bien, de faire force ensemble, de ne faire qu'un au final face à ce qu'ils sont en train de vivre.
C'est très britannique ça, Marie Billon. Ce respect, pas de selfie en voyant le cercueil passer, enfin, on sent que les Britanniques sont très respectueux dans cet hommage.
Les Britanniques sont très respectueux. Alors, on a vu quelques personnes effectivement manifester au moment des proclamations, etc. Il y a eu quelques arrestations aussi et des débats en coulisses sur a-t-on vraiment le droit de rejeter, a-t-on le droit d'arrêter plutôt des gens qui, par exemple, écrivent sur une pancarte « Ceci n'est pas mon roi », puisqu'on sait que certaines personnes ont été arrêtées. Donc, il ne faut pas croire que tout le pays est complètement à l'arrêt pour vivre ça, mais la majorité clairement l'est. C'est vrai que c'est spécialement britannique. Là, on est en train de vous parler d'une file d'attente qui va durer 30 heures, qui est en train de se former. Et moi, je peux vous garantir qu'il n'y en aura pas un qui essaiera de passer devant tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'il serait lynché par la foule. C'est tout simplement parce que c'est très britannique de faire la queue. Et il y a un truc qui est que non seulement ils sont prêts à faire la queue pendant 30 heures pour aller voir la reine, mais en plus, ce sera simplement un badge d'honneur de faire la queue bien en rang et sans justement qu'il y ait de problème.
Et 30 heures, on le rappelle, pour apercevoir un cercueil.
Oui, 30 heures pour voir un cercueil. Vincent disait qu'il les a vus, qu'il les voit, et il est certainement en train de leur parler. Et il est certainement très bien accueilli par tous ces Britanniques qui ont envie justement de parler.
Oui, c'est ce que je voulais vous dire, évidemment, Marie, pardon, mais c'est que justement, quand on parlait de ce respect des Anglais, c'est qu'il y en a énormément ce matin, tout à l'heure, dans la file d'attente, qui sont vraiment habillés, qui se sont endimanchés, on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a des costumes, il y a des robes, il y a des bijoux, des colliers de perles. Vraiment, on s'apprête à voir la reine. Alors, on va s'habiller en condition et vraiment faire en sorte d'être respectueux, y compris devant le cercueil, vraiment. Ça,
merci,
c'est le respect,
Marie,
des Anglais, des Britanniques est constant.
Merci Marie, merci Vincent, merci d'être tous les deux, de nous faire vivre cela, comme vous nous faites vivre. Vincent disait ce matin quelque chose qui m'a touché, c'est-à-dire que les selfies, les portables étaient au-dessus des têtes, non pour prendre des selfies, mais pour éclairer le cercueil qui passait. Merci beaucoup. Dans un instant, Stéphane Boutsock pour parler cinéma.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Pro. RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc c'est cinéma avec notre ami Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous et toutes.
Bonjour Stéphane. Vos coups de cœur de la semaine. Ce sont deux comédies, mais pas que.
Oui, vous savez, c'est ce que j'appelle moi les films millefeuilles. C'est-à-dire que vous avez une première couche, en l'occurrence là, c'est de la comédie. On va parler de Citoyens d'honneur et de Canaille.
Mais
et
après, il y a la crème.
Il y a de la crème, il y a de la tendresse, il y a de la profondeur, il y a des vrais sujets de société. C'est le cas de Citoyens d'honneur, qui est un film réalisé par Mohamed Hamidi, qui est un réalisateur qui avait fait La Vache, notamment en 2016, qui avait été un très gros succès avec Jamel Debbouze et Lambert Wilson, et aussi son acteur fétiche qui s'appelle Fatsa Bouyarmet, qu'on retrouve ici aux côtés de Kad Merad. L'histoire, un écrivain, c'est le rôle de Kad Merad, reçoit le prix Nobel de littérature. Du coup, il est originaire d'Algérie, et sa petite ville d'Algérie lui dit « Pourquoi vous ne viendriez pas? On va vous faire citoyen d'honneur. » Sauf qu'il n'est pas retourné dans son pays depuis une éternité. Quand il va revenir, non seulement on va lui faire sentir qu'il n'est pas forcément, non pas le bienvenu, mais qu'il les a un peu oubliés, et lui dire, vous êtes gentil dans votre œuvre, vous parlez de l'Algérie, mais c'est un pays que vous ne connaissez pas. Donc ce film aborde justement ce thème des racines, comment est-ce qu'on se sent parfois pas tout à fait chez soi dans son pays d'origine et pas tout à fait chez soi non plus dans le pays qui vous a vu grandir. J'ai donc demandé à Kad, qui lui-même est d'origine algérienne, comment lui sentait ce sujet-là.
Moi, je suis natif d'Algérie, mais je n'ai jamais vécu là-bas. Souvent, j'entends l'acteur franco-algérien, j'ai envie de vous dire, mais attendez, ça se mérite d'être algérien quand même. J'ai rien donné au pays, moi. J'ai pas vécu là-bas. Je mérite pas, en fait. Et pourtant, je suis relié à l'Algérie. Cet ailleurs, là, qui est là, qui est un peu lointain. J'ai une famille, la famille de mon père. Moi, l'Algérie, c'est mon père qui m'a toujours parlé, mais toujours mon père avec beaucoup de pudeur, beaucoup de discrétion. Il a jamais voulu qu'on parle arabe à la maison. Je parle même pas l'arabe. Je le comprends pas. C'était peut-être la musique de temps en temps qui sortait de la cuisine quand il nous préparait le couscous. Alors, je peux pas dire, je ferai un retour aux sources. Je peux dire, je peux aller voir le pays dans lequel je suis né, amener mon fils pour lui parler de son grand-père, de là où a vécu son grand-père. Mais c'est simplement un voyage dans le pays dans lequel je suis né, mais j'ai pas de souvenirs, en fait.
Kad Merad, donc, à l'affiche de Citoyens d'honneur de Mohamed Hamidi, c'est sorti aujourd'hui.
L'autre film du jour pour vous, hein?
Oui.
C'est Canaille.
Christophe Offenstein a réalisé ça. Christophe Offenstein, c'est ce qu'on appelle un grand chef opérateur. C'est-à-dire que c'est lui qui, quand vous allez voir un film, est responsable d'une très très belle lumière. Il a notamment quasiment fait tous les films de Guillaume Canet. Là, il est donc derrière la caméra. Alors, c'est un polar, là, et une comédie en même temps. C'est l'histoire d'un trio, François Cluzet, Doria Tillier et José Garcia. Ils vont se trouver réunis par un braquage qui a mal tourné. Et dans ce film-là, José Garcia, il joue un rôle, comme on l'a assez peu vu faire, un rôle totalement introverti. Il joue un prof d'histoire totalement étriqué dans ses vêtements, mais qui cache une personnalité extrêmement trouble qui va beaucoup peser sur la suite du récit. Et justement, là-dessus, José Garcia, comment on fait pour jouer ce côté trouble?
Je dirais que c'est un personnage un peu comme les personnages shakespeariens. C'est comme Iago. C'est des personnages un peu traîtres, un peu veules, mais qui sont les pires, finalement. Ce sont des personnages qui, à partir du moment où on ne les voit pas, ils sont dans ce monde un peu fermé, un peu clos, dépassent et partent dans une morale qui est la leur, mais repoussent en permanence le curseur de la morale. Et tous les jours, vous voyez des faits divers qui sont monstrueux, avec des gens qu'on dit bien sous tout rapport, super gentils dans la rue, et qui en même temps font des choses monstrueuses chez eux. Il y en a tous les jours des histoires comme ça.
José Garcia, Doria Tillier, François Cluzet, impeccable dans le très réussi Canaille.
Et puis carton confirmé, Stéphane, pour Top Gun, Tom Cruise bat ses records en France.
Oui, ça y est, il a passé avec Top Gun Maverick le cap des 6,5 millions d'entrées en France. J'ai remonté dans sa filmographie, c'est en effet son plus gros succès chez nous. Le dernier en date, c'était 88, si je vous dis Tom Cruise, Dustin Hoffman.
Je vous dis, j'étais pas...
Rain Man.
C'était Rain Man, qui était un petit peu moins de 6,5 millions.
Bien évidemment. Et puis, les films français se sont bien portés cette semaine.
Pas mal. 4 nouveautés en tête, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé, pourvu que ça dure.
Donc ça, c'est bien. Le Tigre et le Président, que vous aviez recommandé la semaine passée, qui marche bien.
Compromis de Jérôme Sage, qui marche très fort.
Bien évidemment. Merci Stéphane. Dans un instant, les auditeurs prennent la parole au 32-10.
RTL Midi.